إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، نواصل بعون الله عز وجل قراءتنا لكتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ الصالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وبحمد الله عز وجل وصلنا إلى باب فصل في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. فقال المؤلف رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والاجتماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. Donc, on poursuit bien Allah Azza wa Jal l'explication de Al-Aqidat al-Wasitiyya de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, avec le charh, l'explication du noble Cheikh, le grand savant Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى ورعاه. Et nous sommes arrivés la fois dernière au chapitre intitulé par l'auteur lui-même رحمه الله تعالى concernant les caractéristiques des adeptes, des gens de la sunna et de al-jama'a, le groupe sur la vérité, et pour quelles raisons ont-ils été nommés ainsi. Donc on avait commencé à mentionner les différentes caractéristiques ou certaines caractéristiques des gens de la sunna, caractéristiques par lesquelles ils vont se distinguer des innovateurs et des gens qui sont opposés ou qui cheminent sur un chemin opposé à celui de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On avait mentionné une caractéristique, la première, qui est donc ittiba'u athar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam batinan wa zahira. Le fait de suivre les traces du prophète alayhi salatu wa salam dans son fort intérieur comme en apparence, de manière apparente et inapparente. Voyez. Donc on rappelle ce qu'est la sunna, hein, quand on parle de sunna, quand on parle des traces du messager alayhi salatu wa salam, c'est ce qu'il a laissé derrière lui comme parole, comme acte et comme approbation. Hein? Donc on rappelle que nous ne parlons pas ici des traces matérielles qu'il aurait laissées, telles que les endroits dans lesquels il s'est assis, les endroits dans lesquels il a dormi ou a marché, etc., etc. Taïeb, mais on parle des traces au niveau des paroles qu'il a transmises à ses compagnons, hein, et qui les ont transmises ensuite à leur tour, et ainsi de suite jusqu'à nous. Les paroles, les actes et les approbations du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Taïeb, en sifat al-thaniya, من صفات أهل السنة والجماعة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لما خصهم الله جل وعلا به من العلم والفقه فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة فهم أقرب إلى الصواب وأحق بالاتباع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فاتباعهم يأتي بدرجة الثانية اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يأتي بدرجة الثانية بعد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن طريقهم أسلم وأعلم أحكم لا كما يقول بعض المتأخرين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم أحكم فيتبعون طريقة الخلف ويتركون طريقة السلف. Wal'iyadu billah. Deuxième distinction et signe distinctif des gens de la sunna et du groupe sur la vérité, le suivi du chemin, de la méthodologie, de la voie des premiers et des prédécesseurs. Parmi al-muhajirin et les ansar. Donc al-muhajirun, c'est qui al-muhajirun? Ce sont ceux, les sahaba, qui ont émigré de la Mecque à Médine. On les appelle Al-Muhajiroun. Ou Al-Ansar, c'est qui? Al-Ansar, ce sont les Sahaba qui ont accueilli, hein, les émigrés justement de la Mecque et qui les ont accueillis chez eux à Médine. Voyez. Donc, le fait de suivre ces gens-là, hein, eh bien, c'est tout simplement le résultat de ce qu'Allah Jalla wa'ala leur a donné comme particularité concernant l'ilm, le savoir, la connaissance, concernant al-fiqh, la jurisprudence, la compréhension dans la religion. Pourquoi? Car ces gens-là ont tout simplement été témoins de la descente des versets coraniques. Ils ont été témoins et les ont vécus, hein, en direct. Ils ont entendu l'explication de ces versets de la bouche même de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont pris leur science directement de leur messager alayhi salatu wa sallam, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Ce sont donc les plus proches de la vérité et de la rectitude. Et ceux qui sont donc le plus en droit à être suivis après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc, le suivi, le fait que l'on suive la voie, le chemin de ces gens qui sont al-muhajiroun, les émigrés, les ansar, eh bien c'est un suivi qui vient après le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc il se trouve à un degré inférieur. On va dire que le suivi du prophète est au premier degré, et on dira que au deuxième degré se trouve le suivi des émigrés, al-muhajirin, et des ansar, radiallahu anhum. Donc la parole des sahaba est une preuve qu'il est obligatoire de suivre s'il n'y a pas de texte provenant du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Retenez bien, la parole du compagnon, lorsque le compagnon est dit quelque chose, qala, mathalan, qala Ibn Abbas il a dit, Ibn Umar il a dit, Abu Huraira il a dit, un tel parmi les compagnons a dit, eh bien c'est une preuve, c'est un argument qu'il est obligatoire de suivre à condition qu'il n'y ait pas un texte provenant du messager d'Allah et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que leur voie, leur chemin, il est aslam, il est plus sûr, il est a'lam, il est plus scientifique et plus savant, wa ahkam, et plus sage. Donc le chemin, la méthodologie des sahaba, c'est un chemin, le chemin le plus sûr. Vous voyez, le plus, dans lequel il y a le plus de science, de connaissance, et le plus sage, le plus juste. Pas comme disent certains parmi les contemporains ou ceux qui sont venus des siècles après ces gens-là, qui disent que la voix des salafs, la voix des compagnons, des pieux prédécesseurs, elle est plus sûre. Elle est empreinte de plus de soumission. Mais la voix des gens qui sont venus après eux, elle est, elle, par contre, plus savante et plus juste et plus sage. Donc ils ont fait une différence entre la voix des salafs et la voix des khalafs. La voix des salafs, c'est-à-dire les prédécesseurs, et la voix des khalafs, les successeurs, ceux qui sont venus après les meilleures générations. Et ils ont dit que la voix des gens qui sont venus après, elle est meilleure en termes de justice, de sagesse et de connaissance. Donc ils ont délaissé la voix des salafs pour la voix des khalafs, la voix des gens qui sont venus après eux. Et il n'y a pas de doute que cela est totalement yani, erroné et un égarement, car comme le disent les gens de la sunna, la voix des salafs, elle est plus sûre, elle est plus soumise, elle est plus savante et elle est plus sage. Aynam. Thalifan, min sifat ahli sunna. اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال ترمذي حسن صحيح. Troisième caractéristique distinguant les gens de la sunna des innovateurs, le suivi de la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de suivre les recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes. Intègre et bien guidé après moi. Accrochez-vous à elle et mordez-la avec vos prémolaires. Et attention aux choses nouvellement inventées, car toute innovation est égarement. Donc le hadith rapporté par l'imam Ahmed, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, et Tirmidhi a dit c'est un hadith qui est hasan sahih, qui est bon, authentique. فغرض الشيخ رحمه الله أن يبين أن أهل السنة والجماعة يتبعون طريقة الخلفاء الراشدين على الخصوص بعد اتباعهم لطريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على وجه العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع طريقة الخلفاء الراشدين وصية خاصة في هذا الحديث ففيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته هو عليه الصلاة والسلام فدل على أن من أو دل على أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم لا يجوز العدول عنه. Puis dit, l'intention de l'auteur, ici, rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Islam, est d'exposer le fait que les gens de la sunna et du groupe sur la vérité suivent la méthodologie, la voie de ces quatre califes. Intègre, droit. De manière spécifique. Après le suivi des premiers et des prédécesseurs, parmi les immigrés, les Ansar. Parmi les Muhajirines et les Ansar. Il n'y a pas de doute que ces califs-là font partie de ces gens-là. Font partie intégrante de ces sahabas. Radiallahu anhum. De manière générale. Mais, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié ici le suivi de la sunna, de la voie, de la méthodologie de ces califs-là. De manière particulière dans ce hadith. Et mieux que ça, il a associé et mis ensemble la sunna de ses califes et sa propre sunna. Et sa propre sunna, alayhi salatu wassalam. Et cela prouve que ce que les califes ont mis en place et ont établi comme religion ou l'un de ces quatre califes-là, il sera interdit pour nous de s'en écarter. فالخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ووصفوا بالراشدين لأنهم عرفوا الحق واتبعوه فالراشد من هو الراشد هو من عرف الحق وعمل به وضده الغاوي وهو من عرف الحق ولم يعمل به. Donc ceux qu'il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Khulafa, Al-Rashidun, Al-Mahdiyun, les califes intègres, bien guidés, ce sont les quatre califes qui sont venus donc après lui, après sa mort, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. il les a qualifiés de Rashidin, car ce sont des gens qui ont connu la vérité et qui l'ont suivi. Donc Rashid, Rashid, qu'on peut traduire par intègre ou raisonnable, c'est celui qui a connu la vérité et qui l'a appliquée. Celui qui a connu la vérité et qui l'a appliquée, on dit qu'il est, comment? Rashid. Et le contraire, c'est quoi? El-Ghawi. Le contraire de Rashid, c'est El-Ghawi, l'égaré. Donc El-Ghawi, c'est celui qui a connu la vérité, mais qui ne l'a pas appliquée. فَقَوْلُهُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمَهْدِيِّينَ أي الذين هداهم الله إلى الحق تمسكوا بها أي إلزموها وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها والنواجذ آخر الأضراس. Puis lorsqu'ils ont qualifié de المهديين, c'est-à-dire ceux qu'Allah Jalla wa Ala a guidés vers la vérité. Donc le Mahdi, ça veut dire quoi le Mahdi? C'est celui qu'Allah Jalla wa Ala a guidé vers le Haq, la vérité. D'accord? Donc on a deux caractéristiques mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Rashidun, Al-Mahdiyun. Ceux qui ont connu la vérité et qui l'ont suivi, Al-Mahdiyun, ceux qu'Allah Jalla wa Ala a guidé vers la vérité. Puis il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tamassakou biha, cramponnez-vous à elle, attachez-vous à elle. Accompagnez-la, où qu'elle soit. Wa adhu alayha bin nawajith. Et mordez-la avec vos prémolaires. Donc ici, bien sûr, c'est une métaphore, une image, pour indiquer l'intensité de l'attachement que l'on doit avoir à la sunna, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et à celle de ses califes intègres, raisonnables et bien guidés. Donc, al-nawajid, dans la langue arabe, al-nawajid, ce sont les prémolaires, les dernières molaires. Voyez, ce sont al-nawajidu. Na'am. Et donc, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à mordre cette sunna avec nos prémolaires montre l'intensité vraiment très forte avec laquelle on doit s'accrocher à la voix de nos pieux prédécesseurs rahimahumullah. ثم يقول ومحدثات الأمور وهي البدع فإن كل بدعة ضلالة والبدعة لغة ما ليس له مثال سابق وشرعا ما لم يدل عليه دليل شرعي فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له دليل فهو بدعة وضلالة سواء في العقيدة أو في الأقوال أو الأفعال. في الجن النبي صلى الله عليه وسلم إيه. Prenez garde aux choses nouvellement inventées, c'est-à-dire les innovations. Car il dit, toute innovation est égarement. Donc, el-bid'a, qu'est-ce que el-bid'a? Premièrement, il faut savoir distinguer entre la bid'a dans la langue arabe et la bid'a dans la législation islamique. El-bid'atu, dans la langue arabe, c'est une chose qui n'a pas de semblable précédent. Une chose qui n'a pas de semblable qui l'a précédé. Ça, c'est al-bid'a, l'innovation dans la langue arabe. Alors que dans la religion et dans la terminologie religieuse, eh bien, c'est une chose qui n'est appuyée par aucune preuve légiférée. une chose qui n'est appuyée par aucune preuve légiférée. Ainsi, tous ceux qui vont inventer une chose, qui vont innover quelque chose, puis ils vont l'affilier à la religion, sans preuve, eh bien, sache que cela sera une innovation et un égarement. Que cette chose-là soit une croyance, une parole ou un acte. Que cette chose-là soit une croyance, une parole ou un acte. Aïna'am. Faqala Shaykhuna Salih Ibn Abdul Aziz Al-Shaykh حفظه الله تعالى في قوله فإن كل بدعة ضلالة هذا العموم ظاهر فإن لفظ كل يدل على الظهور في العموم والبدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق كما ذكرنا ومنه قول الله جل وعلا بديع السماوات والأرض يعني من أحدث السماوات والأرض دون مثال سابق ومنه أيضا قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل يعني لست بدعا من الرسل بل سبقني رسل ولست برسول ابتدعت القول بالرسالة فهذا هو معنى البدعة في اللغة ومنه قول عمر رضي الله عنه لما رآهم يصلون التراويح وقد اجتمعوا على إمام واحد واكتظ المسجد بذلك قال نعم البدعة هذه وفي رواية نعمة البدعة هذه يعني هذه البدعة اللغوية لأن هذا عمل على غير مثال سابق في عهده رضي الله عنه وليست بدعة في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم ليالي من رمضان واجتمع الناس معه كما روى ذلك أصحاب السنن رحمهم الله إلى جل الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى par rapport à la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Certes, toute innovation est égarement. Donc là, il n'y a pas de doute que c'est un terme qui a été utilisé ici de manière générale, hein, dans sa globalité. Et donc, le terme « kul » ici, qui veut dire « tout », indique en apparence la globalité, la généralité. Voyez ? Mais il faut savoir que la « bid'a », comme on a dit plus tôt, dans la langue arabe, c'est une chose qui a été inventée et qui n'a pas de semblable qui l'a précédé. D'accord ? Donc, bien faire la distinction entre l'innovation dans la langue arabe et l'innovation dans la religion, dans la terminologie religieuse. Donc, parmi les paroles et parmi les versets dans lesquels on va retrouver des termes qui sont de la famille du terme du mot bid'a, mais qui vont être utilisés par Allah Jalla wa'ala dans son sens linguistique et non religieux. On a la parole d'Allah Jalla wa'ala, badi'u as-samawati wal-ard. Donc badi'u, le créateur. Taïe, c'est-à-dire celui qui a créé, celui qui a fait exister les cieux et la terre, et ces cieux-là, et cette terre-là n'avait aucun équivalent avant cela. Taïeb. Donc on peut dire que la création des cieux et de la terre, c'est une bid'a. Mais c'est une bid'a dans le sens linguistique. Dans le sens où Allah Jalla wa'ala les a créés, alors qu'avant leur création, ils n'avaient aucun semblable, aucun équivalent les ayant précédés. Un autre verset d'Allah Jalla wa'ala, de lequel il dit « قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُولِ » Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça veut dire que je ne suis pas le premier messager. D'accord? Au contraire, des messagers sont venus avant moi. Je ne suis pas venu avec quelque chose de nouveau, avec mon message. Au contraire, tous les messagers qui sont venus avec moi, avant moi, sont venus avec le même message, qui est l'appel au tawhid et l'interdiction du polythéisme, du shirk. Donc ceci est la signification de l'innovation, mais dans la langue arabe. Parmi les paroles également des salaf, on a celle de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a vu les gens prier at-tarawih. Lorsqu'il a vu les gens prier at-tarawih après s'être réunis derrière un seul imam, comme nous le faisons de nos jours, à chaque Ramadan. Demande à Allah Jalla wa Ala qu'on puisse encore le faire cette année. Lorsqu'il a vu que les gens se réunir pour prier Tarawih derrière un seul imam et que la mosquée s'était remplie, qu'est-ce qu'il a dit? Ni'ma al-bid'atu hadhihi. Quelle bonne innovation que celle-ci. Quelle bonne innovation que celle-ci. Subhanallah. Est-ce que ça veut dire que Omar a dit qu'il est permis d'innover dans la religion? Pourtant, là, il parle de la prière, Tarawih. Est-ce que Tarawih, c'est une innovation dans la religion? Et ça veut dire que pendant Ramadan, on n'aurait pas le droit de prier Tarawih? Là. Pourquoi? Parce que ici, l'intention dans l'utilisation du terme bid'a par Omar, radiallahu anhu, eh bien, c'est dans son sens linguistique. Et non religieux. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Tarawih, le fait de prier Tarawih derrière un seul imam était quelque chose qui avait été délaissé par les gens à l'époque de Omar. Radiallahu anhu. Mais ce n'est en aucun cas une innovation dans la religion. Pourquoi? La preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de Tarawih pendant plusieurs nuits durant Ramadan et les gens se réunissaient tous derrière lui, comme cela nous a été rapporté par les Ashab Sunan, qui sont Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Tayyib, wa hakadha. الصفات الرابعة من صفات أهل السنة أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجلونهما ويقدمونهما في الاستدلال بهما والاقتداء بهما على أقوال الناس وأعمالهم لأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا وقال ومن أصدق من الله حديثا ويعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فالهدي بفتح الهاء وسكون الدال هو السمت والطريقة والسيرة وقرئ بالضم الهاء أيضا وفتح الدال الهدى قرئ الهدي وقرئ الهدى والهدى أي الدلالة والإرشاد. Quatrième caractéristique distinctive des gens de la sunna, on a vu donc la première, le suivi des traces du prophète صلى الله عليه وسلم. La deuxième, le suivi de la voie des sahaba, les prédécesseurs, les premiers parmi les muhajirin et les ansar. La troisième, le suivi de la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant la sunna de ses califes, de ses quatre califes, raisonnables, bien guidés. La quatrième, maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le fait de glorifier le livre d'Allah Jalla wa Ala, d'accorder une importance première au livre d'Allah Jalla wa Ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de les respecter et de les faire prévaloir dans toute argumentation. Le fait de les suivre avant le suivi de n'importe quelle parole. Taïeb, donc quatrième caractéristique, accorder une importance première et primordiale au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et toujours les mettre en avant et les faire prévaloir devant la parole de quiconque, avant les actes de qui que ce soit. Car les gens de la sunna savent que la parole la plus véridique qui soit est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme il dit Allah Jalla wa Ala dans le sens rapproché du verset, et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Et qui est plus véridique qu'Allah en information? Et ils savent également aussi que la meilleure des voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce mot, al-hadi, al-ha wa dal wa liya, il pourra se lire de deux façons. On peut le lire avec la fatha sur al-ha et sukun sur le dal. Yani al-hadiyu. D'accord? Donc quand on va le prononcer comme ça et quand on va le lire comme ça, al-hadiyu, eh bien cela va indiquer ou va signifier un chemin, une voie, une méthodologie. Alors que quand on va le lire avec une dhamma sur le ha et une fatha sur le dal, al-huda, dans ce cas-là, al-huda, eh bien ça va signifier une indication, une orientation, irshad, le fait de montrer un chemin, le fait d'indiquer, le fait d'orienter. Ça c'est le huda. Donc al-hadi, c'est le chemin. Alors que al-huda, c'est le fait d'indiquer ces chemins. Le fait d'orienter vers le chemin. Donc on peut dire que al-huda, ماذا? Il indique al-hadi. Al-huda, il oriente vers al-hadi. Ou hakada. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس أي يقدمونه ويأخذون به ويتركون ما عارضه من كلام الخلق أيا كانوا رؤساء أو علماء أو عبادة. Puis il dit que les gens de la sunna préfèrent la parole d'Allah Jalla wa Ala sur toute autre parole, quelle que soit la créature qui la prononce. Ils vont la faire prévaloir et ils vont l'accepter et ils vont délaisser toute parole qui vont la contredire parmi les paroles des créatures, quelles qu'elles soient. Que ce soit les présidents, que ce soit des savants. Taïe? Donc on voit que les gens de la sunna et du groupe sur la vérité ne sont pas fanatiques, ne sont pas des fanatiques, ne sont pas des gens qui suivent des individus. Que cet individu-là soit un président, un dirigeant ou un savant, ou n'importe quel adorateur d'Allah Jalla wa Ala. Voyez? Mais ils suivent Al-Qur'an wa Sunnah. Donc si la parole du savant contredit celle d'Allah, contredit celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ils vont prendre laquelle?
Celle
d'Allah. Ils vont prendre celle d'Allah, Jalla wa Ala, et celle du prophète, alayhi salat wa salam, et ils vont délaisser la parole du savant. Qui que ce soit. Qui que ce soit. وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أي سنته وسيرته وتعليمه وإرشاده على هدي كل واحد من الخلق مهما عظمت مكانته إذا كان هديه يعارض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Donc les gens de la sunna, ils font prévaloir également la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la sunna, la voie, l'enseignement, l'orientation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils la mettent en avant, avant n'importe quelle voie, avant n'importe quelle méthodologie, n'importe quel chemin instauré par une créature. Et ce, même si la créature a atteint un rang dans la science, même si elle fait partie des plus grands savants sur Terre, et qu'elle est apte à émettre des fatawas, on doit respecter les ulama. On doit les aimer. On doit les obéir, à condition que cela ne soit pas contredit par Allah, il a dit, ou le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Car encore une fois, Ahl Sunnah wal Jama'a ne sont pas des fanatiques aux créatures. Le seul qui est infaillible, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si la méthodologie ou la voie de tel ou tel savant, de tel ou tel individu contredit celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on doit la rejeter, et cela tout simplement en mettant en application la parole d'Allah jalla wa ala dans la sourate An-Nisa verset 59, dans le sens rapproché du verset: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux parmi vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire les dirigeants et les ulama, ceux qui sont aptes à émettre des fatawas. Mais il dit Allah jalla wa ala, fa in tanaza'tum fi shay'in, et si vous vous disputez en quoi que ce soit, eh bien ramenez cette chose-là à Allah et à son messager. C'est-à-dire revenez au Coran et revenez à la Sunna pour trancher dans vos différends. Wa qawlu wa li hadha summu ahla al-kitab wa sunnah. أي لأجل تمسكهم بكتاب الله وإيثارهم لكلامه على كلام كل أحد وتمسكهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تمسكهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمه على هدي كل أحد سموا أهل الكتاب والسنة لأجل ذلك لقبوا بهذا اللقب الشريف الذي يفيد اختصاصهم بهما دون غيرهم ممن حاد عن الكتاب والسنة من فرق أهل الضلال كالمعتزلة والخوارج والروافض ومن وافقهم في أقوالهم أو في بعضها. طيب. Puis il dit, et c'est pour cela que, donc pour le fait qu'il fasse prédominer et prévaloir la parole d'Allah et la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela qu'ils ont été appelés les adeptes ou les gens du livre et de la sunna. Pourquoi? Eh bien, par rapport à leur attachement au livre d'Allah. Et par rapport au fait qu'ils aient fait prévaloir la parole d'Allah Jalla wa'ala sur la parole de autre que lui. Et le fait qu'ils se sont accrochés à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ait fait prévaloir sur la guidée de d'autres que lui sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils ont été appelés les gens de la, les gens du livre et de la sunna. C'est pour ça qu'on leur a donné cette appellation noble, voyez, qui nous montre que ces gens-là sont en cette particularité-là, contrairement aux autres personnes, yani les innovateurs qui vont faire prévaloir leur raison ou la parole de leur cheikh ou celle de leur gourou ou celle de leur passion avant celle d'Allah Jalla wa'ala et la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou ceux qui se sont écartés et qui ont délaissé le livre d'Allah et la sunna parmi les innovateurs et les sectes tels que le Mu'tazila, le Khawarij, le Rawafid et tous ceux qui sont yani, dans la même méthodologie et le même chemin que eux, que ce soit au niveau de la croyance, au niveau des paroles ou au niveau des actes. وقوله وسموا أهل الجماعة وسموا أهل الجماعة أي كما سموا أهل الكتاب والسنة سموا أهل الجماعة والجماعة ضد الفرقة لأن التمسك بالكتاب والسنة يفيد الاجتماع والائتلاف قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق. Puis il dit, et ils ont été appelés aussi les gens de Al-Jama'a, les gens du groupe Al-Jama'a sur la vérité. Donc comme ils ont été appelés les gens du livre de la Sunna, ils sont également appelés les gens du groupe d'Al-Jama'a. Et c'est le contraire et l'opposé de la division, Al-Furqa. Al-Jama'a, ضدها Al-Furqa. Le contraire d'Al-Jama'a, c'est Al-Furqa, la division. Pourquoi? Parce que le fait de se cramponner et de s'attacher au livre et à la sunna, eh bien cela aboutit à l'union et à la concorde. Vous voyez? Pourquoi les gens du livre d'Allah et les gens de la sunna sont appelés les gens du groupe? Eh bien tout simplement parce que le fait de s'attacher au livre d'Allah et le fait de se cramponner à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, cela aboutira à l'union et à la concorde entre musulmans. Allah Jalla wa Ala, il a dit, wa'atasimu bihablillah. Et revenez et cherchez protection par le câble d'Allah Jalla wa Ala, c'est-à-dire la religion d'Allah Jalla wa Ala, tous ensemble. Wa la tafarraqou. Et ne vous divisez pas. Donc, al-jama'a huna, le groupe, eh bien, ça désigne ceux qui sont réunis sur la vérité. Ceux qui sont réunis sur la vérité. C'est pour ça que l'on dit al-jama'a, c'est le groupe sur la vérité. On demande à Allah Jalla wa Ala qu'on fasse partie des gens du livre d'Allah, de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et des gens de al-jama'a, du groupe sur la vérité, et qu'on soit unis sur la vérité. Donc, on a ici évoqué quatre caractéristiques distinctives des gens de la sunna et du groupe. Et il en reste encore deux, bi'ithnillah azza wa jal, que l'on va donc mentionner la semaine prochaine, insha'allahu jalla wa ala. Fa naktafi bihada al-qadr. Barakallahu fikum. نسأل الله جل وعلا يوفقنا في دينه سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.